Alors, ce matin, j'ai envie de parler du découragement, du désespoir d'Élie. Comment ça se fait qu'il est tombé dans un profond découragement à un moment donné? Mais avant, j'aimerais parler un tout petit peu de Jézabel, parce que c'est elle qui a un petit peu tout mis sans dessus dessous. Hein. Jézabel, c'était une princesse phénicienne, fille d'Itobal, roi de Tyr et de Sion, et elle est mentionnée par Racine la première fois comme la mère d'Athalie. Elle devient par son mariage reine consort. Donc, on va dire que c'était quelqu'un de très haut rang, cette Jézabel. Et dans l'Ancien Testament, son histoire est racontée dans le livre des Rois. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette Jézabel? Elle va introduire dans le royaume de Samarie le culte du dieu Baal et Astarté, enfin deux divinités païennes. Et Jézabel va s'activer à introduire, à développer le culte de ces deux divinités, Baal et Astarté. Et elle va persécuter la religion nationale des Juifs, puisque jusque-là, les Juifs adoraient Yahvé. Mais à partir de son règne à elle, elle va chercher par tous les moyens à introduire Baal et Astarté. Elle va chercher aussi à détourner Akab, parce qu'Akab, son mari, c'est un homme qui est un petit peu entre deux. Il a la crainte du Dieu de ses pères, c'est-à-dire de Yahvé, mais sous l'influence de sa femme, déjà, il n'osera pas lui dire non. Lorsqu'elle introduira Baal et Astarté, c'est un homme un peu faible qui est entre deux. On va le voir tout à l'heure. Et voilà qu'à un moment donné, cette Jézabel va chercher à mettre à mort Élie, le prophète, et on le comprend, puisque Élie va exterminer, si on peut dire comme ça, par la puissance du Seigneur, 850 prophètes en tout, ce qui va rendre Jézabel complètement folle, et elle va chercher à exterminer Élie. Et c'est à la suite de cela qu'Élie va tomber dans ce grand découragement. Alors, comme je l'ai dit, Jézabel a une mauvaise influence sur Akab, son mari. C'est elle qui le pousse à la tyrannie. Par exemple, un tout petit exemple, on ne va pas s'arrêter là-dessus, mais lorsqu'Akab se promène devant la vigne de Naboth, il va dire « Akab, quelle magnifique vigne !» Mais voilà, ça va s'arrêter là, j'aimerais bien la posséder. Et c'est Jézabel qui va mettre tout un plan machiavélique en place pour que son mari Akab puisse obtenir cette vigne. Mais au départ, Akab, je ne pense pas qu'il serait allé aussi loin. Évidemment, on peut se promener devant une vigne puis dire « j'aimerais bien cette vigne ». Mais on n'ira pas jusqu'à tuer le propriétaire de cette vigne pour s'en emparer. Mais Jézabel, elle, va faire le pas suivant. Donc c'est quand même dire de quoi était animée cette femme. Hein. Et c'est aussi sur cet épisode-là que Dieu décide de frapper à un moment donné Jézabel, et Dieu va le lui dire que ça va mal se terminer. C'est un avertissement que Dieu donne à cette femme pour qu'elle se repente, pour qu'elle change de vie, pour qu'elle réalise son péché. Mais elle ne va rien écouter, elle va continuer à s'endurcir et on sait la fin. Elle va être tout à la fin. Ce que Dieu aura dit à ce moment-là se réalisera bien des années plus tard. Elle sera simplement jetée par la fenêtre de son palais, elle tombera par terre et les chiens mangeront son corps et il restera les mains et les pieds, hein, les paumes et c'est tout. Donc on ne se moque pas de Dieu et quand Dieu donne un avertissement, même si ensuite les choses semblent se remettre en place, Dieu n'a pas oublié l'avertissement qu'il a donné à Jézabel et à un moment donné, Dieu va réaliser ce qu'il a dit par rapport à cette femme. Mais toujours est-il qu'entre l'avertissement de Dieu et la fin de la vie de Jézabel, il y a tout un grand laps de temps où elle va continuer à instaurer le dieu Baal et Astarté, et où elle va réussir un temps. mais le malheur va s'abattre sur elle. Et même après la mort d'Akab, Jézabel continue de régner avec ses fils, Ocosias, puis Joram, Jéhu, etc. Et il y aura encore des avertissements. Alors, maintenant, revenons à Élie. Dans 1 Roi, au chapitre 19, les versets 1 à 8, c'est là qu'on lit « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères ou que mes ancêtres, suivant la traduction. » C'est quand même une demande assez particulière d'Élie. « Seigneur, là, c'est assez. » C'est une demande qu'Élie adresse à Dieu en 1 Roi, chapitre 19, le verset 4. Mais c'est la demande d'un serviteur de Dieu qui veut présenter sa démission. Mais on parle d'Élie, la trempe d'Élie. La Bible, Jacques nous dit qu'Élie était d'une trempe extraordinaire. C'est comme si Billy Graham posait sa démission. Évidemment, Billy Graham est âgé maintenant, on l'entend beaucoup moins. Mais à l'époque où il était dans un ministère international, on l'aurait entendu du jour au lendemain, je pose ma démission. Mais qu'est-ce qui se passe chez Élie pour qu'il pose sa démission? Alors, c'est suite, comme on l'a dit, à cet épisode où le feu de Dieu est intervenu et où il a tué les 850 prophètes, 400 de Baal, 450 d'Astarté, ou l'inverse. Mais vous savez, Élie n'est pas le seul à avoir fait cette demande au Seigneur. « Seigneur, enlève-moi la vie. » D'autres l'ont fait aussi. Moïse s'est exprimé de la sorte lorsqu'il croyait ne plus pouvoir porter sa charge de conducteur du peuple d'Israël. Et Moïse a dit en Nombre, chapitre 11, verset 15, « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Mais évidemment que Moïse, c'est aussi un homme de Dieu absolument remarquable, absolument extraordinaire. C'est un homme qui s'est présenté devant le Pharaon et qui a dit au Pharaon, « Laisse sortir mon peuple du pays d'Égypte. » Et il l'a fait à 10 reprises différentes. Et ensuite, Moïse a conduit ce peuple à travers le Jourdain, à travers la mer Rouge, et dans le désert durant 40 ans, mais un homme à la tête d'un peuple au cours raide, comme dit la Bible. Mais à un moment donné, Moïse lui-même aussi, tout puissant homme de Dieu qu'il était, a eu ce moment de découragement où il a dit, ben, « Seigneur, reprends-moi, ça sert à quoi de continuer ?» Mais je pense aussi à Jonas. Alors Jonas... On le prend un petit peu de haut. Oh, Jonas, franchement, pourquoi est-ce que tu as refusé d'aller avertir Ninive avec les paroles que le Seigneur t'avait données? Et Jonas s'en va à l'opposé et il est récupéré par un poisson dans lequel il reste 3 jours. Et quand il se rend vraiment à Ninive pour avertir la ville du jugement imminent de Dieu, eh bien, cette ville se repent et c'est là que Jonas craque. Mais il fallait quand même le faire. Vous vous verriez, vous, aller devant le palais fédéral à Berne, les politiciens, et les avertir d'un jugement à venir de Dieu parce que leur conduite est mauvaise, parce que leurs valeurs sont mauvaises. Bon, encore que le palais fédéral, faites-le en Syrie, faites-le dans certains pays, comme ça, eh bien... Je doute que beaucoup d'entre nous auraient le courage de faire ça. Mais Jonas l'a finalement fait. Mais ça lui a pesé. Mais vous savez, revenons à Élie. Hein. On a l'impression que Jézabel gagne sur tous les plans. Hein. Bien sûr, ces prophètes sont morts. Mais elle entre dans une rage folle. Mais on sait de quoi elle est capable. On l'a vu avec Naboth. Et si vous étiez à la place d'Élie, quand Jézabel dit « Que les dieux amènent sur moi le malheur et pire encore si demain à cette heure même, je ne t'inflige pas le même sort que tu as affligé à ces prophètes. » Imaginez que remporté une victoire spirituelle. Les dieux Baal et Astarté sont exterminés. Vous vous réjouissez. Mais votre joie est de courte durée parce que vous avez une Jézabel qui arrive derrière vous et qui vous dit, elle ne l'a pas dit elle-même, elle l'a dit par l'entremise de son serviteur, que les dieux amènent sur moi le malheur et pire encore, si demain à cette heure même je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes, comment est-ce que vous réagiriez? Mais on va un petit peu décortiquer cette phrase, parce qu'elle est très intéressante, cette phrase. Déjà, elle provoque chez Élie la fuite. En 1 Roi 19, les versets 1 à 3, devant cette menace, Élie se hâta de partir. Il se hâte de partir et il demande la mort. Mais quand même, c'est bizarre. Cet homme de Dieu qui a vu la puissance de Dieu venir et exterminer ses 850 prophètes de Baal, cet homme qui a vu la puissance de Dieu à l'œuvre, voilà qu'il capitule devant Jézabel et qu'il s'enfuit. Il ne s'est pas enfui devant les prophètes de Baal, mais il s'enfuit devant le serviteur de Jézabel. Puisque Jézabel n'est pas là, elle envoie son serviteur dire ces choses-là. Mais on va se poser une première question. Moi, j'ai trouvé très bizarre, et j'ai relu cette phrase pendant 20 fois. Que les dieux amènent sur moi le malheur, et pire encore si demain à cette heure même, je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. J'ai lu cette phrase 20 fois et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à relever. La première question que je me suis posée, mais est-ce que Jézabel représentait un réel danger pour Élie à ce moment-là? Oui et non. On sait Jézabel capable du pire. Mais dans ce temps-là, est-ce que ça représentait un danger pour Élie? Il est vrai que Jézabel prête serment au nom de ses propres dieux, que les dieux, mais ce n'est pas le dieu d'Élie, elle prête serment à ses dieux, à elle, que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Jézabel fait appel à ses dieux, mais Élie aurait dû se dire, ouais, mais bon... Les dieux de Jézabel, les dieux de Jézabel, ces dieux auxquels Jézabel demande de l'aide, ces dieux n'ont pas pu sauver ces 850 prophètes. Mais pourquoi Élie n'a pas fait le lien entre son dieu à lui qui a exterminé les 850 prophètes et les dieux de Jézabel qui eux étaient drôlement impuissants? Est-ce qu'ils avaient les mains dans les poches? Est-ce qu'ils entendaient? Est-ce qu'ils sont même vivants? Mais Élie sait très bien qu'ils n'existent pas, ces dieux-là. Le dieu d'Élie est le dieu tout-puissant, mais les dieux de Jézabel, ben dans cette situation, n'ont pas pu, ces dieux à elle, protéger ces 850 prophètes. Mais Élie semble avoir oublié la puissance de Dieu. Qu'en est-il de ces dieux de Jézabel? Donc déjà là, c'est des paroles creuses que Jézabel prononce. Ces dieux à elle, ils valent rien. Ils n'ont aucune puissance. Enfin, ils ne se sont pas révélés suffisamment costauds pour venir défendre ces prophètes. Mais bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a fait vraiment réfléchir, c'est quand même un peu bizarre que Jézabel envoie un messager à Élie pour lui annoncer qu'elle va le tuer dans 24 heures. Elle le dit. Si demain à la même heure, bon, je ne sais pas exactement quelle heure c'était, mais si vous avez envie de tuer quelqu'un, votre voisin par exemple, est-ce que vous allez lui envoyer votre fils pour lui dire « Malheur à moi si demain, dans 24 heures, tu es encore vivant ?» Ben franchement, est-ce qu'elle n'aurait pas pu exterminer Élie tout de suite? Dire à quelqu'un « je vais t'exterminer dans 24 heures », ça lui donne le temps d'aller se cacher n'importe où. Et Élie connaissait tous les recoins du désert, toutes les grottes, il connaissait tout, il avait vécu là des années. D'ailleurs, dire à quelqu'un, Jézabel savait très bien qu'Élie allait prendre la poudre d'escampette et se cacher. Et qu'elle ne le retrouverait plus. Donc, pourquoi Jézabel dit ça? C'est que Jézabel doute qu'elle puisse vraiment tuer Élie. C'est qu'elle sait au fond de son cœur que l'exterminer, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Alors, qu'est-ce que Jézabel essaye de faire? Jézabel essaye d'intimider Élie. Mais Jézabel sait très bien qu'elle n'a pas le pouvoir de la tuer. Parce que Jézabel sait que ses dieux à elle n'ont rien pu faire contre le Dieu de l'Éternel. Et Jézabel sait que le Dieu d'Élie est plus fort que ses dieux à elle. Mais elle ne se repent pas encore. Elle reste dans son incrédulité, elle menace. Mais c'est sa seule arme. La seule chose que Jézabel peut faire dans cette situation-là, c'est lancer des menaces à tout va, depuis son palais où elle est bien cachée, bien protégée. Bon, il y a ça, mais il y a autre chose aussi. Et Jézabel a peur du peuple, et le peuple n'était pas complètement acquis au dieu Baal et à Astarté, et encore moins après tout ce qui vient de se passer. Et le peuple semble retrouver la crainte du Seigneur. Oh là là, le dieu d'Élie, attention, hein. Qui parmi le peuple aimerait porter la main sur Élie après les 850 prophètes exterminés? Il n'y en a pas un, ils ont tous la pétoche. Même Akab, comme je l'ai dit au début, qui est un homme entre deux, mais qui apprécie quand même Élie, et qui craint quand même d'une certaine manière le dieu d'Élie, et qui n'aimerait pas exterminer Élie pour après être exterminé lui-même. Donc, qui porterait la main sur Élie à ce moment-là? Personne. Probablement personne. On en a peur, et on a peur du Dieu qu'il représente. Donc, qu'est-ce que Jézabel? Jézabel, c'est que du blabla, ses paroles. C'est que du vent. Elle n'a aucune autorité sur le Dieu d'Élie. Elle n'a aucune autorité sur Élie lui-même. Elle n'a aucune autorité sur les circonstances. Tout lui dépasse. La seule chose qu'elle peut faire, Jézabel, c'est du blabla, c'est de l'intimidation. Elle essaye avec sa bouche, mais à part ses paroles, elle n'a aucun moyen d'action. Le problème, c'est que ça marche. Ça marche puisque son but, c'est qu'elle y fiche le camp, parce qu'on ne le voit plus. Ça marche puisqu'elle y va prendre ses affaires et partir. Et il va demander l'amour. Ça marche parce que Élie, là, a fait une petite bêtise. Il a écouté Jézabel. Alors, Élie va demander l'amour. Il va partir, il va demander l'amour. Et Dieu va intervenir. Déjà, Dieu ne va pas juger Élie. Dieu aurait pu dire à Élie, mais dis donc, mais tu te rends compte, j'extermine 850 prophètes, le feu du ciel descend, consume les pierres, consume les sacrifices, et même toute l'eau que tu as mis sur les sacrifices, tout est consumé, tu as vu ma puissance, et maintenant tu doutes. Mais franchement, le Seigneur aurait vraiment pu donner un bon avertissement, puis une bonne fessée à Élie dans ce contexte-là. Non. Seigneur ne juge pas Élie, il lui donne à manger. Et Élie va partir un petit bout, mais en fait il va se recoucher très rapidement après. Et puis là, une deuxième fois, Dieu va se révéler à Élie, une fois de plus, pour lui redonner des forces et pour changer un petit peu sa vision des choses. Mais c'est quand même un petit peu dommage, parce que si Élie n'avait pas écouté les paroles de Jézabel, il ne serait pas passé par ce moment de dépression. Mais pourquoi est-ce qu'il a écouté les paroles de Jézabel? Pourquoi est-ce qu'il s'est laissé intimider par l'ennemi, on pourrait dire? Vous savez, on est dans un combat spirituel aujourd'hui qui est un petit peu le même. l'ennemi vient et nous attaque et nous dit des choses et nous fait croire qu'il a toute la puissance alors qu'il n'en a plus aucune. Enfin, il a de la puissance, mais Dieu a toute la puissance, lui. Élie lui-même répond à ça. Il le dit. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, en 19.4. Et Jacques, lui, va confirmer ce qu'Élie dit en disant mais il était un homme de la même nature que nous. Mais en fait, Élie admet qu'il est un homme comme les autres. C'est la juste réalité. Ben, bien sûr qu'Élie est un homme. Mais où Élie réalise sa faute, c'est qu'à un moment donné, il a regardé à lui-même plus qu'à Dieu. Et c'est précisément parce qu'il a fixé son attention sur cette réalité, « Je suis un homme », qu'il s'est égaré, s'est laissé ébranler au point de perdre tout espoir et de préférer la mort à la vie. Vous savez, là, il y a, je crois, l'essence de l'enseignement pour nous apprendre. C'est que quand on est dans des difficultés, quand l'ennemi nous attaque, est-ce qu'on fixe nos yeux sur nous-mêmes ou sur Dieu? Si Élie avait fixé ses yeux uniquement sur le Seigneur, comme il l'avait fait auparavant, il ne serait pas tombé dans cette dépression-là, c'est sûr et certain. Si nous ne regardons pas au-delà de nos possibilités humaines, nous risquons de perdre espoir. Si tout dépend de nos efforts, nous pouvons même être amenés à croire que la mort vaut mieux que la vie. La plus grande erreur d'Élie est qu'il accorde du crédit à ce que dit à Jézabel, et c'est qu'il regarde à lui-même plutôt qu'au Seigneur. Mais voilà, je crois qu'Élie va simplement prendre cette leçon. Et à partir de la deuxième fois où Dieu lui donne à manger, Élie va se mettre à marcher durant 40 jours. Alors le texte n'est pas là pour relever les prouesses physiques d'Élie qui marche 40 jours, ce n'est pas le but. Mais toujours est-il qu'au départ, quand Dieu lui demande de marcher, ce n'est pas tout à fait clair où il doit aller. Marche, va en direction. Et puis ça se précise en direction de l'Horeb, le Sinaï, la montagne de Dieu, là où Dieu s'est révélé, bien avant. Au fond, Dieu convie Élie à le rejoindre sur sa montagne à lui, sur le lieu de la sainteté, le lieu où il s'est révélé. Mais vous savez, le chemin qu'Élie va faire pendant 40 jours, 40 c'est déjà un chiffre assez intéressant, hein? Mais c'est le même chemin où, en partie, pas complètement, on n'a pas le temps de prendre les cartes de géographie, mais c'est en partie le même chemin que le peuple d'Israël a fait pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, le peuple d'Israël a marché dans le même désert et à peu près au même endroit où Élie a marché, pendant 40 jours. Mais pendant 40 ans, ce peuple a erré dans le désert à cause de son incrédulité. Et pourtant, ce peuple qui a erré 40 ans dans le désert voyait l'action de Dieu tous les jours par la manne qui était donnée, par l'écaille, par les sources qui s'ouvraient, l'eau qui était donnée, les habits qui ne s'usaient pas, la nuée qui les guidait, etc. Tant d'interventions quotidiennes de Dieu auprès de son peuple. Mais ce peuple errait parce qu'il doutait des promesses de Dieu. Et ce peuple est mort dans le désert, à part Caleb et Josué, et est mort dans le désert à cause de son incrédulité. Voilà, ça c'est la réalité du peuple de Dieu. S'il doute des promesses du Seigneur, il meurt dans le désert. Et ça aurait pu arriver à Élie, qui commençait à douter de la puissance de Dieu, qui commençait à regarder aux éléments, Jézabel, les choses, et qui commençait à se décourager, à s'enfoncer complètement. Vous savez, quand quelqu'un mourait dans le désert, et bien on l'enterrait, puis on mettait 2-3 rochers, petites stèles, pour rappeler que là, il y avait un mort. Et tout porte à croire que quand Élie a traversé ce désert pour aller en direction d'Horeb, la montagne de Dieu, il a dû croiser des centaines de stèles. Et toutes ces stèles ont dû lui rappeler, mais celui-ci, il est mort. de vieillesse, parce qu'il a douté. Toute cette génération est morte dans le désert, bien des années avant. Mais imaginez cet Élie qui se promène, un tel, des personnages inconnus pour lui. Mais toutes ces personnes qui sont mortes dans le désert parce qu'elles ont douté la puissance du Seigneur. Alors que ces personnes-là voyaient Dieu agir tous les jours par la manne, l'écaille, etc. Qu'est-ce qu'Élie a dû penser ? Mais moi je vais finir dans ma caverne, hein, en dépression. Allons-y avec la force que le Seigneur nous donne. On va marcher les 40 jours et on va s'appuyer sur le Seigneur. C'est le message. Hein. C'est le message et j'ai pas envie de mourir dans le désert. Et c'est la même chose pour nous chrétiens, il y a vraiment un appel à fixer nos yeux sur le Seigneur. Si Jézabel nous envoie des messages en nous disant qu'on ne va jamais y arriver, que ses dieux à elle sont beaucoup plus forts et je ne sais pas quoi, on doit retrouver la force, la joie, on doit retrouver absolument la vision du Seigneur. Alors j'aimerais donner une conclusion maintenant, qui est je la donne à moi-même, mais elle est un petit peu dure à quelque part. Il n'y a pas d'avenir hein, pour le peuple de Dieu s'il écoute les mensonges et les duperies de Jézabel. Il n'y a pas d'avenir pour le peuple de Dieu ou pour ma vie personnelle si j'essaye de survivre sans compter sur le Seigneur. Une telle attitude n'aboutit qu'à l'amour. Mais vous me direz, mais c'est évident. Mais quand on est placé dans des circonstances qui sont extrêmement opposantes, difficiles, mais quelle est notre attitude ? Est-ce qu'on ploie sous les attaques ou est-ce qu'on lève nos yeux et on dit à Dieu, ben Seigneur, je te fais confiance, je m'appuie sur toi. Il n'y a pas d'avenir pour le peuple de Dieu s'il ne compte que sur ses propres forces et sur ses capacités limitées. C'est seulement en tournant notre regard vers Dieu que nous prendrons courage et que nous poursuivrons notre route. Fixer notre attention sur cette œuvre miraculeuse de Dieu en son Fils ne nous empêchera pas de rencontrer des problèmes sérieux et difficiles. Toutefois, ils ne pourront pas nous faire perdre tout espoir, car la victoire est certaine. Donc j'aimerais vous encourager par ce dernier texte de Paul en Romains au chapitre 8, verset 37. Tournons donc notre regard vers celui qui nous rend plus que vainqueurs. Amen. Que Dieu vous bénisse.